Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
On avait un peu peur, quoi. Il y avait des filles qui pleuraient, des jeunes, il y avait des enfants. Je suis désolée, mais l'Accor Hotel Arena pour des concerts qui mettent que deux vigiles aux portes, c'est très grave.
Des violences à Bercy hier soir, un 13 novembre. Des supporters du PSG cagoulés ont forcé l'entrée du concert du rappeur marseillais Jules, blessant plusieurs personnes.
Autre actualité, le décès d'un patient qui avait appelé le SAMU de Nancy. Selon un témoignage, les opérateurs ont raccroché à 3 reprises en l'espace d'un quart d'heure. Une enquête est ouverte. La situation dans les hôpitaux, alors que l'hôpital public est en grève aujourd'hui, médecins, aides-soignants et même étudiants demandent un traitement de choc.
J'ai fait ce métier pour soigner des gens et on se rend compte qu'avec le manque de moyens, ben on est démuni. Parfois, on a 3 minutes pour voir un patient et puis ensuite, ben il faut enchaîner sur le suivant.
Dans ce journal également, Google se lance dans la banque. Le géant américain va-t-il rafler le marché de la banque en ligne? Venise sous les eaux, 1m30 actuellement. Les touristes se régalent, mais les commerçants pas du tout. Comment vivra l'enfant né en 2019 avec le réchauffement climatique? La revue The Lancet a fait des projections. Et puis,
on travaille depuis des mois sur la qualification. On a envie de l'acter au plus vite.
France-Moldavie, c'est ce soir et les Bleus doivent se qualifier pour l'Euro 2020. La météo, Céline Dacosta, de la neige avec d'ailleurs des départements en vigilance.
Oui, les chutes de neige les plus importantes sont attendues dans un triangle Mâcon, ouest de Grenoble et le nord de la Lozère englobant Lyon, Saint-Étienne, Valence ou encore le Puy-en-Velay. On va y revenir. Pour l'instant, 7 départements sont en vigilance orange, neige et verglas. 3 pour orage, pluie et inondation et 2 pour vague submersion. Merci Céline. On vous retrouve à 12h30, météo complète sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une intrusion, Pierre, dans une salle de concert, un 13 novembre, c'était donc hier soir.
Oui, des supporters parisiens qui agressent des fans du rappeur marseillais Jules à son concert. C'est ce qui s'est passé hier, en effet, 13 novembre 2019, 4 ans après les attentats du Bataclan, des hommes cagoulés qui ont forcé les grilles de Bercy, Mathieu Bock.
Oui, en plein concert, plusieurs dizaines d'ultras, capuches sur la tête, habillés en noir, ont fait irruption dans la salle, visiblement très bien organisée, créant la panique parmi les milliers de fans du chanteur marseillais en cette soirée du 13 novembre. Puis ils ont tiré des fumigènes dans la foule et passé à tabac chaque spectateur qui arborait le logo de l'OM et dont le chanteur Jules est un grand fan. Puis ils ont déployé une banderole « Marseille, not welcome » dans les travées. Rapidement débordée, la sécurité a fermé les portes, empêchant environ 300 fans du chanteur d'entrer alors qu'ils avaient payé eux-mêmes leur billet parfois un an à l'avance, comme Sophie.
On avait un peu peur, quoi. Il y avait des filles qui pleuraient, des jeunes, il y avait des enfants. Parce qu'avec les trucs attentats et tout, je suis désolée, mais l'Accor Hotel Arena pour des concerts qui mettent que 2 vigiles aux portes, je suis désolée, c'est très grave. Parce qu'on peut voir qu'eux, ils sont rentrés sans se faire contrôler, sans rien du tout, aussi facilement. On peut dire qu'en fait, n'importe qui peut rentrer quand nous, on est dans le concert, en fait.
Alors, le chanteur Jules, malgré les bagarres qui éclataient un peu partout dans la salle, n'a pas interrompu son concert et a continué à chanter, remerciant à la fin son public comme si de rien n'était.
C'est vrai, on ne perçoit pas la grève tout de suite.
Alors après le concert, il a simplement posté sur Instagram une photo de lui et de ses amis dans les loges, sans faire référence aux incidents survenus durant son concert.
Merci de ces précisions. Mathieu Bock.
L'autre information, Pierre, de ce jeudi, c'est cette révélation, un homme de 54 ans mort après avoir en vain tenté d'appeler le SAMU.
Oui, le décès a eu lieu mercredi de la semaine dernière. On l'apprend aujourd'hui car le parquet de Nancy a ouvert une enquête. Ce patient, qui habitait à une quinzaine de kilomètres de Nancy, a tenté d'appeler plusieurs fois de suite, Romain Oquet.
Oui, 3 appels au SAMU qui auraient refusé de se déplacer. L'un des opérateurs aurait même raccroché à plusieurs reprises. C'est finalement après une 4e tentative, 15 minutes plus tard, que non pas le SAMU mais les pompiers se rendent au domicile du patient. Il souffre de fortes douleurs à la poitrine, son état se dégrade. En arrêt cardiaque, il n'a pas pu être réanimé. Une amie du patient qui a passé les appels raconte qu'un opérateur lui a indiqué qu'il s'agissait simplement d'une grippe et qu'il fallait l'emmener chez son médecin traitant. L'autopsie a finalement révélé un décès lié à une rupture de l'aorte. Le procureur de la République de Nancy a ouvert une enquête. L'objectif est d'analyser les conditions de prise en charge. Les appels passés entre le proche du patient et les opérateurs du SAMU seront analysés. Une enquête interne est également en cours. Une nouvelle affaire qui entache l'image du SAMU, déjà écornée par l'histoire de Naomi à Strasbourg. La jeune femme était décédée aux urgences en 2017. Elle aussi avait appelé le SAMU. L'opératrice avait alors refusé de la prendre en charge. L'affaire a d'ailleurs entraîné une réforme de la formation des opérateurs du SAMU.
Merci Romane. Ok, une suite dans l'affaire des bébés sans bras. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête préliminaire sur le cas d'un bébé né avec une malformation à la main dans l'Ain, ce département. Souvenez-vous, était le point de départ de ce dossier sensible il y a 7 ans déjà. Ce cas est le 9e recensé à ce jour dans l'Ain. Entre-temps, une vingtaine d'autres cas se sont ajoutés dans d'autres départements. Santé publique France, l'an dernier, n'avait identifié aucune cause pour les cas suspects. Une nouvelle enquête avait débuté en février dernier.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 5, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et l'hôpital Pierre est en grève aujourd'hui.
Ras-le-bol, pas de moyens, pas de matériel, des salaires toujours aussi bas, des lits supprimés, les médecins, les aides-soignants et même les étudiants se sont donné rendez-vous dans toute la France aujourd'hui pour crier leur colère. Arthur Elmbaché, vous êtes devant le tout nouvel hôpital civil de Strasbourg et cette colère, eh bien, vous l'avez sous vos yeux.
Oui, même si la direction de l'hôpital aimerait bien qu'on ne la voie pas, cette colère, puisque des vigiles ont été envoyés pour mettre les journalistes dehors. Avant cela, j'ai quand même recueilli le témoignage d'Alexis, infirmier aux urgences. Burn-out il y a un mois, le bricolage tous les jours, dit-il, même pour trouver de quoi manger pour les patients.
Bon, en fait, c'était un collègue qui cherchait un patient et il a fait un malaise pendant le transport. Et donc, il s'est retrouvé seul, il a dû appeler de l'aide.
Alors que normalement, il y a deux brancardiers pour...
Voilà.
Là, votre quotidien, c'est de transporter des patients seuls ?
Pratiquement tous les jours, oui.
Voilà, vous avez entendu une brancardière, Cathy, qui parle de ce quotidien. Je vous propose d'écouter le témoignage de cet infirmier.
Alors, bah, on se débrouille, on bricole. On bricole, clairement. On va à gauche, à droite, on récupère un petit panier repas d'un autre service. On récupère des madeleines, parfois, un petit morceau de pain, de la confiture. Ce genre de choses, c'est assez... c'est horrible. En fait, c'est horrible de se dire... j'ai fait ce métier pour soigner des gens. Et on se rend compte qu'avec le manque de moyens, bah, on est démunis. On peut pas se permettre de faire ce qu'on voudrait parce que parfois, on a 3 minutes pour voir un patient. Et puis ensuite, bah, il faut enchaîner sur le suivant.
Voilà, les manifestants qui sont ici vont remonter, travailler dans les étages. À présent, un infirmier au bloc me disait à l'instant, quand j'ai commencé à bosser il y a 10 ans, j'étais fier, j'avais le sourire en arrivant à l'hôpital. Plus maintenant.
Merci Arthur Elmbaché en direct de Strasbourg pour Europe 1.
268 établissements touchés par cette grève, c'est totalement inédit. Pierre, vous avez entendu hein, d'ailleurs la colère à l'extérieur, mais nous allons voir aussi ce qui se passe à l'intérieur des hôpitaux.
Jean-Jacques Héry, vous êtes en direct de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où à première vue, eh bien, tout se passe comme d'habitude.
C'est vrai, on ne perçoit pas la grève tout de suite et pour cause, hein, on sait que les établissements comme la Pitié-Salpêtrière ont massivement déprogrammé les opérations chirurgicales qui n'étaient pas urgentes. Et puis, il y a des nombreux personnels qui ont été réquisitionnés pour assurer la continuité du service hospitalier et qui donc ne peuvent pas vraiment faire grève, même si certains se déclarent grévistes. Résultat, pas vraiment d'impact au premier abord pour les patients que l'on rencontre dans l'enceinte de l'hôpital, des patients comme Floriane qui soutiennent la mobilisation.
Ouais, je suis plutôt solidaire du mouvement. Si j'ai bien compris, il y a un manque de moyens, un manque de personnel et bah je sais pas. En tant que patiente, ouais, je peux que soutenir. Il n'y a jamais trop de moyens, en tout cas pour la santé. Oui, c'est vrai que ça fait pas luxueux, quoi. Quand on va à l'hôpital, c'est pas très reluisant et des fois ça peut même inquiéter, ouais.
Alors il devrait y avoir quand même beaucoup de monde dans la rue cet après-midi. On rappelle qu'une quinzaine d'organisations syndicales ont appelé à débrayer. Tout le monde ici me décrit un hôpital public au bord de l'implosion. Emmanuelle, infirmière, raconte très simplement la déliquescence de l'hôpital public.
Le manque de personnel surtout, puisque moins on a de personnel, plus on va entre guillemets se fatiguer, puisqu'on a une charge de travail qui est beaucoup plus lourde. Ça fait 3 mois que je suis infirmière. Pour l'instant ça va, j'ai toujours la motivation. Après on me dit, bon t'es encore jeune, tu viens d'arriver, t'as encore la passion du métier, mais dans quelques temps tu voudras peut-être plus. Et puis j'ai beaucoup de collègues ou d'amis qui me disent qu'elles ne feront pas infirmière toute leur vie.
Pourtant, Emmanuel n'ira pas manifester cet après-midi. Ce n'est pas l'envie qui lui manque, mais mon salaire est trop faible, confie-t-elle. Je ne peux malheureusement pas me le permettre.
Merci Jean-Jacques Héry à la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital à Paris pour Europe 1.
Il est midi 8, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Avec un nouveau loupé, Pierre, pour EDF, la centrale nucléaire de Creusse ne redémarrera pas demain comme prévu.
Oui, EDF annonce en fait un redémarrage progressif à partir de mi-décembre. Maud Descamps, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce délai supplémentaire?
Alors, ce qu'on nous dit du côté de la direction d'EDF, c'est qu'on veut procéder à une deuxième vague de tests par mesure de précaution. Pour cela, EDF va transmettre demain à l'autorité de sûreté nucléaire la liste de ces tests, l'ASN qui donnera ensuite son feu vert ou non pour qu'ils soient réalisés. Alors, pourquoi l'électricien avait initialement annoncé un redémarrage demain? Eh bien, parce qu'EDF a l'obligation, lorsqu'il arrête un réacteur, de donner un calendrier. Ça, c'est pour les marchés financiers, puisque EDF est coté en bourse. On a peut-être été un peu trop optimiste. Voilà ce qu'on m'a dit ce matin chez EDF. La direction qui assure que ce délai n'est pas dû à la découverte d'anomalies. Sur place, à Cruas, on me confirme qu'il n'y a pas d'anomalie détectée pour le moment. En revanche, des calculs sont en train d'être faits sur l'élasticité des tuyaux pour voir s'ils résisteraient en cas d'un nouveau séisme de même intensité. Et une fois que tous ces tests seront terminés, eh bien c'est l'ASN qui décidera si les réacteurs peuvent être remis en marche ou non.
Merci de ces précisions. Maud Descamps.
Il est midi 10. Europe 1. Restez avec nous dans un instant sur Europe 1, la banque Google. Vous connaissez? Eh bien non, c'est nouveau. Et ça va sortir. À tout de suite. Il est midi 12. La suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Depuis plusieurs années maintenant, Pierre, les banques en ligne remplacent petit à petit les traditionnelles banques de détail.
Oui, c'est une aubaine pour un grand groupe comme Google. Axel de Tarlé, c'est officiel, le géant du numérique va donc lui aussi investir ce marché.
Voilà, un compte bancaire Google, une carte Google, voilà, ça devrait être effectif dès l'année prochaine selon le Wall Street Journal. Vous l'avez dit, c'est une concurrence redoutable de plus pour nos banques traditionnelles françaises, d'autant que pour attirer le client, on peut penser que Google va pratiquer des frais bancaires très réduits. Alors l'objectif recherché de Google, c'est pas forcément la banque en tant que telle qui est une activité moyennement rentable. Non, l'intérêt, c'est bien l'accès à nos données bancaires. Qu'achète-t-on? À quel moment achète-t-on? Quels sont les liens de cause à effet? Si j'ai acheté tel produit, serais-je susceptible d'acheter tel autre? Et c'est là où on réalise pleinement l'intérêt stratégique des données. Vous savez, on appelle ça le pétrole du 21e siècle. Imaginez, on frémit en apprenant qu'au même moment où Google donc, se lance dans la banque, le Wall Street Journal nous révèle également que Google est en train de collecter légalement aux États-Unis les données de santé de millions d'Américains. Vous voyez, quand vous mettez l'un dans l'autre, on réalise que la pieuvre Google, comme on l'appelle, va bientôt tout connaître de nous, nos habitudes, nos goûts, nos dépenses et notre état de santé.
Merci Axel de Tarlé. Le Monde bouge avec vous tous les matins à 7h20 sur Europe 1.
Le chômage augmente, plus 0,1 point au troisième trimestre.
Oui, ce qui fait 8,6 de la population active sur la France entière. Mais si l'on regarde sur un an, il baisse de 0,5 point. Et c'est ce qui satisfait la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Le taux de chômage, oui, il atteint, il est sur un palier ce trimestre-là. Bon, je crois qu'il faut garder de toute façon la vision long terme. Sur un an, le chômage il baisse quand même de 0,5 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 158 000 demandeurs d'emploi ont retrouvé un emploi. Et puis, vous avez vu, il y a quelques jours, la dynamique de création d'emplois est très forte, avec plus de 260 000 emplois qui sont créés depuis un an.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Et on note également que l'inflation a ralenti en octobre 0,8% sur un an, notamment dû à une baisse des prix de l'énergie.
Que s'est-il passé, Pierre, la nuit dernière à Montauban?
Les corps de deux femmes ont été retrouvés sans vie. Benjamin Peter, vous êtes sur place. Il y a deux hommes qui sont en garde à vue.
Oui, deux hommes qui sont les deux compagnons des victimes. Alors tout commence vers 4h du matin. Un jeune homme de 17 ans alerte ses voisins. Il explique qu'une personne s'est introduite dans sa maison située dans le quartier de Villebourbon. Affolé et portant des plaies sur les mains, il explique que l'agresseur serait avec sa petite amie, âgée elle, de 18 ans. À l'arrivée de la police, le corps de sa mère de 38 ans est tout d'abord retrouvé gisant au rez-de-chaussée, lardé de plusieurs coups de couteau et portant une plaie par arme à feu au niveau du cou. À l'étage, un deuxième corps, celui de la petite amie du jeune homme, va être retrouvé abattu par arme à feu en plein cœur. Alors le jeune garçon a été placé en garde à vue, il nie être l'auteur des faits. Et alors que les policiers étaient sur place, le compagnon de la mère, âgé lui de 35 ans, va se présenter devant le domicile et être à son tour interpellé pour être entendu sous le régime de la garde à vue également. Mais pour l'instant, le scénario de cette nuit d'horreur reste très flou et selon le procureur, rien ne permet encore de déterminer la responsabilité de l'un ou l'autre de ces hommes dans ce double meurtre.
Merci. Merci de ces premières précisions, Benjamin Péter, en direct de Montauban pour Europe 1.
Il est midi 16, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et nous partons pour Venise, Pierre. Et à la toute dernière mesure, on est à peu près à 1,30 m d'eau.
Oui, cette marée haute, cette aqua alta se poursuit. C'est moins qu'hier, hein. On était monté jusqu'à 1,87 m. Pauline Jacquot, vous êtes en direct de Venise. Alors il y a deux cas de figure, il y a ceux qui trouvent ça drôle et d'autres pas du tout.
Oui, en marchant dans ces rues inondées, on se rend vraiment compte des deux visages de Venise à midi. Il y a ces touristes d'un côté, très équipés, avec des bottes jaunes, bleues, roses fluo quelquefois, qui se prennent en photo, les pieds dans l'eau, sourire aux lèvres, en postant immédiatement leurs clichés sur les réseaux sociaux. Et puis il y a les Vénitiens, le visage marqué, les commerçants notamment comme Manuel, en train d'écoper l'eau à l'intérieur de son magasin.
Maintenant, même ma maison est inondée. Je suis obligé d'aller dormir chez mes parents à 2 heures de Venise. Je dors très peu. 4 à 5 heures par nuit. Le reste du temps, je suis toujours là au magasin et j'attends l'arrivée des marées.
Dans la même rue, à quelques mètres, Carlo vend ses fameux masques vénitiens. Il est fatigué, son dos lui fait mal à force d'être accroupi en train de nettoyer le sol. Il accuse les autorités vénitiennes d'être à l'origine de ces montées des eaux.
Ils ouvrent des voies de navigation toujours plus grandes pour ces énormes navires de croisière sur la lagune. Ça laisse entrer beaucoup plus d'eau dans la ville. Et ça, ils ne veulent pas le comprendre. Ce n'est que pour des raisons économiques.
Et il y a encore énormément de commerces fermés à l'heure qu'il est certain de compte pas rouvrir avant demain soir, lorsque ce phénomène de montée des eaux est censé s'arrêter.
Merci Pauline Jacquot, envoyée spéciale d'Europe 1 à Venise.
Il est midi 17. Il est midi 20, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et accrochez-vous, hein, on va vous expliquer maintenant ce que pourraient devenir vos enfants dans le contexte climatique actuel.
C'est la prestigieuse revue de Lancet qui s'est mise dans la peau d'un bébé né cette année, en 2019. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Alors il y a deux scénarios et ça dépend vraiment de nous. D'abord, si on est un bon élève, que devient cet enfant?
Alors si on entame une transition écologique radicale, donc ça veut dire qu'on parvient à contenir le réchauffement de la planète sous la barre d'1,5 degré, quand ce bébé aura 6 ans, il vivra la fin de l'utilisation du charbon, ce qui est une très bonne nouvelle pour les émissions de CO2. À l'âge de 21 ans, les toutes dernières voitures essence et diesel auront été vendues, ce sera fini. Et puis quand il aura 30 ans, la France sera parvenue à la neutralité carbone, c'est-à-dire pas plus d'émissions que ce que la Terre peut absorber. Donc ça, c'est le scénario optimiste, vous l'avez compris. Les chercheurs ont pris l'exemple d'un bébé pour tenter de faire prendre conscience aux citoyens des enjeux en leur disant c'est la santé de vos bébés, ceux qui naissent en ce moment.
Virginie, l'autre scénario, si on ne fait rien de plus?
Alors, ce bébé qui a encore des poumons en formation respirera un air de plus en plus toxique au fil des années, ce qui veut dire plus de risques d'asthme, de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux. Il devra gagner plus d'argent pour se nourrir. Un exemple, le rendement du maïs a déjà baissé de 20% environ par rapport aux années 60. Et puis, quand ce bébé aura atteint les 70 ans, les températures auront déjà augmenté de 4 degrés avec des conséquences catastrophiques pour la planète. Donc vous l'avez compris, ces scientifiques et ces économistes appellent à une action radicale pour renverser l'impact énorme du changement climatique sur la santé de nos enfants.
Merci Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe.
Le sport et du football avec France-Moldavie, match de qualification pour l'Euro 2020.
20h45, Stade de France à suivre en direct et en intégral sur Europe 1, soirée spéciale. Cyril de la Morinerie, sauf accident industriel, les Français devraient se qualifier.
Oui, parce qu'en face, c'est la Moldavie, 175e au classement FIFA, battu à l'aller 4-1 par les Français, composé de joueurs inconnus et qui s'est même incliné face à Andorre. Parce que les Bleus, même privés de Loris, Pogba, Hernandez et Matuidi, enregistrent le retour de Kanté, le retour également de Mbappé. Et puis les Bleus, eh bien, ils ne prennent pas ce rendez-vous à la légère. Prudence ne signifie pas crainte, rappelle Didier Deschamps. Raphaël Varane, capitaine ce soir, abonde en ce sens. Le groupe est concerné.
Je sens le groupe serein, dans la bonne humeur cette semaine. Toujours content de retrouver Clairefontaine. On travaille depuis des mois sur la qualification. On a envie de l'acter au plus vite. On a envie d'être qualifié et puis ensuite en objectif secondaire d'être premier du groupe.
Ah, des Bleus qui pourraient même être qualifiés avant de jouer, puisque si l'Islande ne bat pas la Turquie en fin d'après-midi, le billet pour l'Euro sera dans la poche. Mais le deuxième objectif, vous l'avez entendu, c'est cette première place, pour l'instant détenue par la Turquie. Les Bleus devront, sur ces deux derniers matchs, faire mieux que leurs homologues turcs pour espérer être tête de série en juin prochain. Ce soir, 70 000 spectateurs sont attendus au Stade de France pour une belle fête, puisque les Bleus devraient donc se qualifier pour l'Euro.
Merci Cyril de la Morinerie. Et je le rappelle, donc la fête, c'est également sur Europe 1, 20h45 pour le coup d'envoi. Mais Lionel Rousseau et toute l'équipe des sports sera mobilisée dès 20h pour vous faire vivre cet événement.
Et vous revenez, vous, Pierre de Villeneuve, à 13h pour un
volontiers
nouveau journal.
À tout de suite.